Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui donne la parole aux chercheurs dans le domaine du numérique. On vous raconte comment les ingénieurs travaillent avec des entreprises pour le plus grand bénéfice de l'innovation. Aujourd'hui, on va parler télévision et intelligence artificielle. J'accueille Titus Zaharia, il est professeur à Télécom Sud Paris et expert en imagerie numérique multimédia. Bonjour.
Bonjour.
On vous connaît comme professeur à Télécom Sud Paris, vous dirigez également le département d'enseignement et de recherche Artemis, Advanced Research and Technique for Multidimensions Imaging Systems, spécialisé dans l'imagerie numérique 2D, 3D et vidéo. Et puis on vous connaît aussi comme responsable scientifique du laboratoire IATV, Intelligence Artificielle pour la Télévision, laboratoire que vous avez monté avec France Télévisions. Alors ça consiste en quoi ?
Il y a plusieurs volets qui sont pris en compte, notamment dans le cadre de cette coopération avec France Télévisions. Donc nous avons la chance de travailler avec eux. Eux, ils sont une source extrêmement riche de problématiques de recherche. Le dénominateur commun qui est important à souligner, c'est tout ce qui est analyse en fait vidéo pour essayer de les comprendre de façon automatique, pour comprendre quels sont les objets qui y apparaissent, quels sont les visages, les mots qui sont prononcés et tout cela de façon automatique. Donc voilà, ce qui est important peut-être c'est cet aspect d'analyse, d'extraction finalement, de connaissances à partir des données audiovisuelles brutes.
Vous devez répondre à plusieurs problématiques. Je sais qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, c'est la synchronisation des sous-titres. Pourquoi ?
Les grandes chaînes de télévision ont l'obligation légale de produire des sous-titres, et ceci même pour les émissions qui sont diffusées en direct. Alors, comment ça marche ? Je pense que lors de la pandémie Covid, vous avez vu les présentations faites par le président de la République, et puis là, ça se voyait très bien comment ça marche. Il y a des scripts spécialisés qui font en temps réel ce sous-titrage. Sauf que, bien évidemment, quand c'est en temps réel, en fait, il y a toujours des problèmes de synchronisation, il y a des fluctuations qui sont de l'ordre de quelques secondes. Et donc, quand les vidéos sont mises à disposition du public en podcast, ben, finalement, il y a toujours ce problème de synchronisation. Et ça serait très coûteux, en fait, de faire une synchronisation manuelle pour l'ensemble des contenus qui est immense. Donc là, dans ce cadre-là, nous avons mis au point, en fait, une méthode qui permet de synchroniser, en fait, de façon automatique les sous-titres avec le contenu.
Ok, c'est clair pour la synchronisation. Il y a aussi un autre exemple, c'est ce que vous appelez la segmentation des vidéos, c'est ça ?
C'est très important pour de nombreuses applications. Un exemple d'application qui peut bénéficier de ces techniques, c'est l'insertion de publicité en fait. On se demande, on a de la publicité à insérer dans une vidéo, où est-ce qu'on peut l'insérer de façon à ce que ça coupe pas, par exemple, la bande sonore, de façon à ce que ça soit cohérent, que ça soit pas au milieu d'un plan, ça serait inacceptable. Et puis, si possible, aussi en liaison avec le contenu même, et puis d'une manière qui peut avoir un impact aussi positif que possible sur les téléspectateurs.
Il paraît que vous travaillez aussi sur les émotions.
C'est une recherche en fait qui est un peu plus exploratoire. Donc les émotions, comment on peut le reconnaître ? Ben en analysant finalement les expressions du visage, en analysant la voix, en combinant les deux pour comprendre quelle est l'émotion qui se dégage à partir d'une scène. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là.
Et avec France Télévisions, ça commence à ressembler à une longue histoire d'amour, non ?
L'histoire n'a pas commencé avec IATV, elle a commencé il y a maintenant 8 ans avec différents projets collaboratifs, projets qui sont financés en fait par l'État. Et on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble et au bout de ces projets, on s'est dit que finalement on a encore beaucoup de choses à faire ensemble et on a tenté de pérenniser cette collaboration à travers la création d'un laboratoire commun.
Titus Zaharia, vous n'êtes pas le seul à travailler sur l'intelligence artificielle appliquée aux médias. Qu'est-ce qui fait votre différence, votre force ?
Effectivement, il y a beaucoup de monde dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a les grands groupes industriels, ce qu'on appelle les GAFAM. C'est un cadre de recherche qui est effectivement très concurrentiel. Ce qui nous différencie peut-être un peu plus, c'est le fait que nous sommes tout d'abord chercheurs, donc on développe de la méthode avec un souci quand même de l'appliquer vraiment dans le monde réel, à avoir des performances, de la robustesse. Donc c'est le sens du détail, de la performance hein, qui peut faire la différence, et puis aussi de la personnalisation, puisqu'on ne traite pas de la même manière des millions de contenus avec des ensembles qui peuvent être plus réduits et de moindre qualité.
Vous avez très bons résultats puisque vous avez développé des méthodes dites industrialisées à France Télévisions.
Tout à fait, c'est le cas de la méthode que j'évoquais tout à l'heure sur la synchronisation des sous-titres. C'est aussi le cas de la méthode d'insertion en fait de publicité qui est en cours de synchronisation, et puis je pense que la liste va pouvoir bientôt s'allonger.
Lorsqu'on a préparé cette émission, vous m'avez parlé aussi d'une méthode qui concerne l'identification d'images iconiques des contenus. Comment pourriez-vous l'expliquer aux auditeurs ?
Vous imaginez, vous avez, je ne sais pas, un épisode d'une série télévisée qui dure une trentaine de minutes. Alors, leur objectif, c'est d'identifier une image pour caractériser toute cette séquence. C'est ce qu'ils doivent de toute façon faire lorsqu'ils mettent à disposition leur contenu sur leur site. Et donc, nous avons mis en place une méthode qui permet d'identifier automatiquement une image qui est de bonne qualité et puis qui est en quelque sorte sous différents critères représentatifs du contenu.
Ce laboratoire commun, c'est la confrontation de deux univers, celui de la recherche et celui du monde de la télévision. Comment ça se passe ?
Ça fonctionne très bien. Je pense que voilà, il faut laisser peut-être un peu de côté l'image du chercheur académique qui est enfermé dans sa tour d'ivoire. On est vraiment très tourné vers l'industrie et c'est ça qui est important. C'est ça qui crée la dynamique des discussions qui nous font avancer et qui les font également avancer. Donc c'est très très important.
Et surtout, c'est constructif parce que le bilan de ce partenariat est positif.
C'est une très belle expérience intellectuelle, c'est simplement une aventure. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que les choses ne sont pas figées, on évolue de façon vraiment agile. Donc ça veut dire aussi que les objectifs évoluent, ça veut dire aussi qu'on met en place des efforts un peu plus importants. Mais voilà, ça crée une très belle dynamique et c'est ça qui est important puisque c'est ça qui nous fait avancer. Et puis, leur richesse en termes de problématiques de recherche, de problèmes non résolus est très très appréciable.
Et le plus grand défi auquel vous êtes confronté ?
Je pense que c'est le défi de performance surtout, hein, puisque dans le monde académique, parfois on a tendance, ok, on a développé une méthode qui est superbe, qui répond à pas mal de choses, mais que pour que ça soit vraiment utilisable, la performance, elle est quand même essentielle. Et puis là, quand on entre à ce niveau-là de détail, on se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut parfois repenser complètement, remettre à plat les méthodes pour pouvoir atteindre l'objectif qui est fixé.
Par rapport à l'état des connaissances, l'état de l'art, comme on dit en science, où en êtes-vous ?
Écoutez, je pense qu'on est pas mal pour pas mal de méthodes. Typiquement, pour la partie segmentation, je pense qu'on est très très bon. Quand on parle de l'état de l'art, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut quand même rester un peu humble. Les choses sont en train d'évoluer à une vitesse phénoménale. Et puis, il y a une production scientifique, démocratisation des ressources. Il y a des réseaux de neurones, typiquement du code qui est mis à disposition. Et ça évolue en fait tous les jours. Donc voilà, il faut être à la fois humble et puis vigilant par rapport à l'état de l'art, puisque les choses sont vraiment en train d'évoluer à une vitesse qu'on n'avait pas connue auparavant.
Ça va très vite et en même temps, ça se démocratise. Aujourd'hui, on voit qu'on peut avoir accès aux recherches sur l'intelligence artificielle en un clic.
C'est bien ça, ce qu'on appelle les GitHub, où on trouve du code en open source. On trouve aussi les papiers scientifiques, pas forcément dans les grandes bases de données type I3E ou ACM, etc. Mais il y a quelque chose qui s'appelle Archive, où les auteurs, ils mettent en fait des préprints des articles qui seront ultérieurement publiés par les journaux. Donc on a vraiment très facilement accès à l'information. Tout le monde qui veut essayer peut essayer sans aucune difficulté aussi de se lancer un peu dans l'intelligence artificielle.
Merci Titus Zaharia d'avoir participé à ce nouveau numéro de Science Num, le podcast de TSP, soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode avec Adrien Pagès, fondateur de Morpho, une start-up spécialisée dans la reforestation. À bientôt !